Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des émotions. Comment on peut parler des émotions avec les enfants afin de les aider à vivre et à mieux comprendre leurs émotions et ce qui leur fait ressentir ces émotions. Donc je viens d'écrire un livre qui a été publié aux éditions Solar et qui s'appelle « Mes petites graines de sagesse ». Donc ce livre est né suite à ce que je mettais en place dans ma classe de primaire depuis un certain nombre d'années et qui me semblait apporter beaucoup aux enfants et aussi à nous adultes et même aux adultes qui passaient pour observer nos classes. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais dans une classe Montessori, au sol, il y a un cercle ou une ellipse qui est tracée à la peinture ou avec du scotch. Et c'est le lieu du regroupement. Donc les enfants apprennent que sur ce cercle, on ne se tient pas n'importe comment. Ils sont assis, les jambes en tailleur, les mains posées sur les genoux et le dos bien droit. Donc les regroupements qui ont lieu sur ce cercle ont des objectifs différents en fonction de l'âge des enfants. Chez les plus petits, c'est là qu'ils écoutent une histoire, qu'ils chantent des chansons, ou que l'éducateur ou l'éducatrice peut leur présenter un matériel ou un thème qu'ils étudient ensemble. C'est là aussi qu'ils disent la date, la météo, et aussi tout ce qui peut être important pour eux, par rapport à ce qu'ils vivent à ce moment-là. C'est aussi là qu'ils fêtent leurs anniversaires avec le récit de l'histoire de l'enfant, et le partage d'un gâteau, c'est ce qu'on appelle la promenade de l'anniversaire de l'enfant. Dans les classes élémentaires, c'est un peu la même chose. Il y a aussi ce cercle et c'est aussi le lieu pour les discussions sur tous les thèmes qu'ils souhaitent qu'on aborde ensemble. Lorsqu'il y a des petits soucis dans la classe, c'est aussi sur le cercle que l'on en parle, ou quand il y a des disputes dans la cour, qu'un enfant est malheureux, c'est sur ce cercle qu'on aborde la discussion ensemble. Ainsi, le cercle permet qu'on soit tous au même niveau et là, ils savent qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent être écoutés, qui vont pouvoir échanger et aborder les sujets importants de leur vie. C'est aussi là que chaque jour, ils disent que l'on appelle les nouvelles, c'est-à-dire que ceux qui le désirent profitent de ce moment pour partager ce qu'ils ont vécu ou qu'ils vont vivre dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, le respect est très important, on écoute ce qu'ils ont à nous dire, et puis parfois ils se questionnent entre eux. Aussi, quand ils veulent présenter un exposé, c'est aussi là qu'ils le font. Et puis, parfois, lorsqu'on a la chance, comme vendredi matin, d'avoir la visite d'un parent qui vient partager sa passion ou son métier, c'est aussi là que cela se passe. Donc, depuis pas mal d'années, je me rendais compte qu'à l'occasion de ces discussions sur le cercle, il y avait de très nombreux sujets qui étaient évoqués, et souvent d'une manière très profonde, et que les enfants arrivaient à dire des choses extraordinaires d'eux-mêmes, juste en les orientant un petit peu par des questions, et en les écoutant avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il faut vraiment qu'ils soient persuadés que ce qu'ils disent, c'est vraiment, ça compte pour nous, qu'on le retient, qu'on s'en souvient, et qu'on est vraiment attentif à leurs paroles. Et donc un jour, il y a Philippe Négaret, avec qui j'ai écrit le livre dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est arrivé dans la classe pour suivre une formation qualifiante. Et lorsque les stagiaires suivent cette formation d'un an, parmi les tâches, les devoirs qu'ils ont à faire, ils doivent présenter à tous les élèves une leçon sur le thème de leur choix. Et donc Philippe, qui était coach et sophrologue, il m'a proposé une activité de méditation, de sophrologie, et qu'on pourrait faire suivre d'une discussion sur des grands thèmes de la vie. Nous, on appelait ça des thèmes philosophiques, mais c'est un peu des grands thèmes de la vie. Donc, on a mis ces ateliers en place pendant pas mal d'années, et ça fonctionnait tellement bien que j'ai eu envie de proposer aux éditions Solar d'en faire un livre. Et c'est comme ça qu'est né notre livre, Mes petites graines de sagesse. Donc tout ça, je vous dis tout ça pour que vous compreniez l'idée du thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous, qui est celui des émotions. Celui de la grande nécessité d'aider l'enfant des tout-petits à reconnaître ses émotions, à savoir aussi déceler comment ils les ressentent dans leur corps, dans leur cœur, à mettre des mots dessus, à savoir dans quelle situation ils les ressentent, et ainsi à beaucoup mieux vivre avec elles, et aussi à mieux comprendre les autres. Évidemment, toujours, tout cela est pour permettre de mieux se construire, de mieux grandir et devenir des adultes plus heureux. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ce besoin pour être bien dans sa vie, de mettre des noms sur ses émotions, de les accueillir, de comprendre quand elles se déclenchent et de savoir en faire quelque chose de bien. Donc cela aussi, ça fait aussi partie du besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de mieux connaître les autres et de mieux les comprendre. Donc c'est vraiment un processus qui est très important et sur lequel on travaille de plus en plus aujourd'hui, surtout avec les enfants, mais il serait nécessaire aussi qu'on travaille avec les adultes. Et Fabrice Midal, que nous avons eu la chance d'interviewer pour l'épisode 37 de ce podcast, explique aussi comme il est important d'accueillir les émotions de l'enfant. Quand l'enfant explique, si on l'écoute, il s'apaise. Et il dit qu'il faut vraiment accorder une grande différence entre le fait de calmer un enfant et apaiser un enfant. Apaiser, c'est l'aider à traverser sa colère sans que cela lui fasse mal. Fabrice Midal disait aussi qu'on commence à le comprendre pour les enfants grâce beaucoup au travail de Catherine Guéguin, qui a bien expliqué qu'aujourd'hui, ne pas accepter les émotions de l'enfant, ça pouvait avoir des conséquences neurologiques, même sur ses capacités cognitives. Et il dit aussi que ce n'est pas seulement qu'il se sente mal à l'aise, mais que ça a des répercussions sur de très nombreuses années. Et ça, maintenant, on l'a vraiment bien compris. Donc c'est pour ça que ce thème me semble très important. Et pour moi aussi, qui souhaite vraiment transmettre la philosophie Montessori, cela fait aussi partie de cette éducation pour la paix. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet des émotions et j'ai eu envie de vous en parler. Et pour moi, bien vivre les émotions, c'est les comprendre, les nommer, mieux les cerner chez les autres, chez soi et chez les autres bien sûr, et c'est offrir aux enfants des petits outils pour y faire face lorsque ces émotions les submergent. Donc je pense qu'un très bon moyen pour aborder ce sujet des émotions, c'est de vous installer ensemble tranquillement, que ce soit en classe avec l'enseignant ou que ce soit à la maison, en sachant bien sûr que ça va être un vrai temps sur lequel on va pas être interrompu et que vous-même, adulte comme votre enfant, vous pourrez avoir une vraie discussion en profondeur sur le temps qu'il faudra et où on sera sincère, où chacun va exprimer vraiment ce qu'il ressent. Et ainsi, je pense qu'on va pouvoir aider vraiment l'enfant à se connecter à lui-même, à ses ressentis et ses émotions, tout en développant sa capacité de réflexion aussi, en l'aidant à se connecter à ses pensées, c'est-à-dire réfléchir avec sa tête et se connecter au monde qui l'entoure. Comment peut-il agir et que ressent-il dans son corps? C'est ça qui est très important, je pense. Donc bien sûr, cette technique, elle convient dès l'instant où l'enfant peut bien s'exprimer, parce que il faut vraiment avoir du vocabulaire pour échanger sur ce sujet. Et encore une fois, voilà l'avantage et la nécessité de développer le vocabulaire de l'enfant. Donc avant qu'il ait cette capacité, je pense qu'il est très très important de l'aider d'une certaine façon à nommer ses émotions et à les accueillir, et surtout pas à prendre les enfants de face et à se mettre en colère à son tour. Sur les émotions, je parle de colère surtout qui dérange ou de tristesse, etc. Par exemple, lorsqu'on a un enfant de 2 ans qui se met en colère parce qu'il veut absolument quelque chose, il est vraiment important de lui dire que vous entendez cette colère, que vous voyez qu'il est fâché, qu'il est en colère, et ensuite essayez plutôt de lui changer les idées parce que il n'a pas le cerveau suffisamment mature pour lui-même sortir de cette émotion. Donc surtout, surtout, ne vous énervez pas, c'est inutile. Il faut juste faire en sorte de l'aider à sortir de cette émotion, juste, je pense, en lui changeant les idées. Pareil pour la tristesse, il faut vraiment accueillir sa tristesse, et on va le voir plus loin, mais vraiment, ce qui est important pour eux à ce moment-là, c'est de leur faire des câlins, car comme l'explique vraiment Catherine Gegel, les câlins provoquent la sécrétion de molécules qui vont contribuer au bien-être et qui vont alimenter un cercle vertueux qui va conduire à une diminution du stress, au développement de l'empathie, à une augmentation de la confiance, au renforcement de l'attachement et à la croissance de l'affection réciproque entre l'adulte et l'enfant. Donc les câlins, les contacts affectueux aussi vont favoriser le développement du cerveau des enfants et ça va les aider à maturer le cortex préfrontal qui est une zone essentielle du cerveau. Donc vraiment, tant que l'enfant n'a pas de vocabulaire, pensez aux câlins, à l'affection, etc. Et aussi, il existe sur Internet énormément d'affiches avec des illustrations de petits personnages sur lesquels on voit les émotions. Et il existe aussi des livres vraiment très bien avec des petites figurines avec les émotions. Et à ce moment-là, pour aider l'enfant, quand il vit quelque chose, demandez-lui de montrer le personnage qui représente l'émotion qu'il ressent à ce moment-là. Déjà, rien que de dire l'émotion, de la montrer, c'est déjà d'une grande aide pour l'enfant. Alors, à partir de 3-4 ans, je pense que l'idée d'une discussion sur telle ou telle émotion, ça me semble vraiment un bon moyen pour aider l'enfant à mieux comprendre ce qui lui arrive et à y mettre des mots. Aussi, il faut que ce soit un vrai échange pour qu'il se rende compte que vous aussi, l'adulte, vous ressentez ce genre d'émotion. Car on sait très bien que l'enfant, souvent, il a tendance à vite culpabiliser. Donc, il faut vraiment le sortir de ça et qu'il se rende compte que l'adulte aussi a des moments où il a beaucoup de joie, de la tristesse, de la peur, de la colère. C'est vraiment très important. Donc, comme je vous disais, il est essentiel de mettre des mots sur ce que l'enfant ressent, de savoir exprimer, mais aussi de savoir quand est-ce qu'il ressent telle ou telle émotion, afin de pouvoir rechercher, par exemple, les moments où il ressent la joie, et de comprendre les moments où il va ressentir de la tristesse ou de la colère, par exemple. Donc, c'est vraiment important pour que l'enfant puisse mieux se comprendre, mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses ressentis dans son corps aussi et dans son corps. Donc, les discussions, si elles ont lieu en famille ou à l'école, elles peuvent vraiment beaucoup, beaucoup aider les enfants à se rendre compte, en fait, que l'on est aussi tous différents, mais et de cette façon-là, à mieux comprendre l'autre, et à être beaucoup plus empathique avec l'autre. Donc, il existe 5 émotions primaires, 6 hein, avec le dégoût, mais nous, on va surtout s'attacher à 5 émotions primaires dont on peut parler assez facilement. Donc, il y a la peur, il y a la colère, il y a la surprise, la joie et la tristesse. Donc, je vous propose qu'on commence par la joie, qui est une émotion qui est bien agréable à ressentir. Et on peut en parler quand même avec l'enfant afin de comprendre et de trouver des outils et les situations qui lui permettent justement de ressentir cette joie. Parce que comme ça, il va apprendre à bien l'écouter, à vivre en phase avec la joie et ainsi, il va être beaucoup plus en phase, encore une fois, avec ses besoins et ses désirs. Donc, je vous propose un certain nombre de questions qui vont vous aider à échanger avec l'enfant. Donc moi, je vous donnerai pas de réponse, parce qu'en fait, je ne donne jamais de réponse aux enfants. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils réfléchissent, qu'ils aussi se questionnent eux-mêmes, qu'ils prennent cette habitude-là, et pour trouver leur propre réponse, hein, parce que chacun, pour moi, a sa réponse. Donc par exemple, on va parler des expériences où il y a de la joie. Donc on peut leur demander, est-ce que tu peux décrire des situations où tu as ressenti de la joie? Hein, ça, c'est important pour qu'ils vous disent les moments où ils ressentent de la joie. Est-ce que tu as déjà remarqué des personnes qui ressentaient de la joie? Donc ça, c'est important par rapport à son regard sur l'autre. Hein. Par exemple, vous pouvez aller plus loin en disant, est-ce que toi, tu as ressenti que papa et maman avaient de la joie à certains moments, lesquels? Est-ce que tu as remarqué que ton copain avait de la joie? Quand est-ce que tu l'avais remarqué? Ça, c'est important pour développer le regard sur l'autre. Vous pouvez lui demander aussi, est-ce que tu as été surpris par une joie soudaine? Parce que parfois, la joie, c'est une émotion spontanée, hein, qui peut être liée à la surprise. Hein, par exemple, une plaisanterie qui va provoquer un rire. Et c'est vraiment important qu'il comprenne ça. Ensuite, vous pouvez lui demander des questions par rapport à qu'est-ce qu'il ressent quand il a de la joie. Donc la première question, évidemment facile, que ressens-tu quand tu as de la joie? Donc ça, c'est important qu'il, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il dise qu'est-ce qu'il ressent dans son corps quand il a de la joie. Après, qu'il essaye de mieux se comprendre. Comment peux-tu savoir que tu vas ressentir de la joie? Donc avec ça, vous l'encouragez à faire le point, c'est-à-dire aussi à anticiper et à se projeter dans des situations où il a de fortes chances de se sentir joyeux. Donc là, l'objectif est très simple, c'est d'identifier encore une fois ce qui lui fait du bien, ce qui lui procure une belle énergie, pour l'aider justement à construire son propre bonheur. Ensuite, vous pouvez lui demander aussi, que ressens-tu lorsque d'autres sont joyeux? Ça, c'est important de pouvoir s'appuyer sur l'empathie. C'est important qu'il se rende compte qu'il peut être joyeux en donnant de la joie autour de lui. Parce qu'ils peuvent aussi se rendre compte à ce moment-là que la joie, c'est une émotion qui est très très contagieuse. Et donc, lui, et aussi qu'il prenne conscience que même s'il est tout petit, il peut apporter lui-même de la joie autour de lui. Et ça, c'est vraiment important pour le développement aussi de sa confiance en lui-même et puis pour l'encourager à être plus altruiste. Donc ensuite, on peut le faire réfléchir sur par rapport à qu'est-ce qu'il pense de cette émotion, qu'est-ce qu'il pense de la joie. Donc par une question comme « Est-ce que la joie est utile dans la vie ?» Hein? Donc à quoi ça sert, quoi? Ensuite, vous lui demandez aussi « Est-ce que l'on peut diffuser de la joie autour de soi ?» Donc on a déjà abordé tout à l'heure cette question, mais on peut lui demander « Est-ce que parfois tu aimerais diffuser de la joie autour de toi ? Est-ce que ça t'arrive ou penses-tu y arriver ? Comment t'y prendrais-tu ? Est-ce que cela te rendrait joyeux ?» Hein, avec des cas concrets par rapport à la famille, par rapport aux copains. Mettre vraiment du concret dans ça. Et ça c'est vraiment important pour qu'il prenne conscience de ce qu'il peut apporter aux autres. Ensuite, vous pouvez lui poser une question comme « Aimerais-tu que les autres t'offrent des moments de joie ? Est-ce qu'ils le font ?» Donc ça, c'est aussi important pour qu'il réfléchisse à être attentif à ce que les autres lui offrent, parce que parfois, on ne voit pas ce que les autres nous offrent. Et ensuite, on peut lui demander aussi « La joie vient-elle toujours de biens matériels et d'autres choses ?» Parce que j'avais remarqué malheureusement que souvent, il répondait que la joie, c'était quand on leur donnait des cadeaux, quand voilà, et donc essayer de les faire réfléchir, d'aller un peu plus loin et qu'ils se rendent compte, par exemple, qu'une jolie musique peut leur donner de la joie, que partager une histoire avec un copain, ça peut donner de la joie, jouer ensemble, regarder un beau paysage. Enfin, vous pouvez trouver plein de choses pour exprimer justement qu'est-ce qui peut apporter de la joie, parce qu'après il peut essayer justement de créer ces situations pour éprouver cette émotion bien agréable. Donc ensuite, on peut parler d'une autre émotion qui est celle de la tristesse. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile pour un adulte de voir son enfant qui a du chagrin, qui est mélancolique, qui a plus d'envie, qui s'isole. Mais on peut aussi se dire que la tristesse exprime un besoin que l'enfant nous montre de cette façon-là. Bon, évidemment, un besoin de réconfort, un besoin d'écoute, un besoin de compréhension. Et que, justement, ça peut vous aider, vous, parents, adultes, à comprendre quand est-ce que l'enfant montre cette tristesse et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter pour ne pas laisser cette tristesse s'installer. On peut essayer aussi de lui expliquer que parfois la tristesse, elle est nécessaire. Par exemple, quand on perd quelqu'un, une personne qui nous est chère, c'est nécessaire aussi pour faire son deuil. Donc, c'est important aussi qu'il le comprenne. Et puis, parfois, il faut de la tristesse pour après ressentir à nouveau de la joie. Donc, le but de cette discussion, ça va être d'aider l'enfant à prendre conscience justement de ces manifestations de tristesse, de lui faire qu'il puisse comprendre où elles prennent racine et quel est l'impact de cette tristesse sur lui-même et sur les autres. Donc, on va pouvoir aussi, grâce à cette discussion, encore une fois, lui proposer des outils et des moyens utiles pour qu'il puisse faire face à cette tristesse d'une certaine et qu'elle soit plutôt constructive et trouver des réponses qu'elle suscite et réagir pour se consoler vite et se retrouver vite dans la joie. Donc par rapport à la tristesse, encore une fois, par rapport à l'expérience qu'il a de la tristesse, lui demander de décrire des moments où il a ressenti cette tristesse. Donc ça c'est important pour toujours être dans le concret et savoir mettre des mots sur les situations qui font ressentir cela et qui se rendent compte que évidemment il y a des moments où c'est normal d'être triste, hein. On perd un animal qu'on aime bien, un copain nous fait de la peine, bah c'est normal de ressentir la tristesse. Ensuite, on peut lui poser la question de comment te comportes-tu quand tu es triste, pour qu'il essaye justement de comprendre quand il est triste l'attitude qu'il va avoir et à ce moment-là qu'on puisse l'accompagner dans ce cheminement. C'est important. Lui demander s'il connais-tu quelqu'un qui est souvent triste autour de toi. Encore une fois, là, c'est pour avoir le regard sur les autres, qu'il soit pas juste centré sur lui, et lui dire. Lui poser des questions, par exemple, quand une personne est triste, est-ce que tu penses qu'elle a juste besoin d'être consolée? Est-ce que tu as remarqué, par exemple, si ton petit frère est triste, comment tu peux l'aider à être moins triste? Quel est le comportement qu'appelle cette tristesse? Donc ça, c'est aussi important, encore une fois, pour mettre en valeur l'empathie. Comment reconnaît-on quelqu'un qui est triste? Donc ça, c'est vraiment important pour le regard sur l'autre, pour qu'ils apprennent, justement, à bien regarder les autres et à les comprendre. Comment on peut savoir que quelqu'un est triste? Est-ce que c'est toujours facile de s'en rendre compte? Est-ce que parfois on cache sa tristesse? Et pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir honte aussi d'être triste? Voilà. Est-ce que tout le monde montre sa tristesse de la même façon? Est-ce que on voit de la même façon chez les enfants, chez les adultes, chez les parents et dans les différentes cultures? Ça, c'est important vraiment le regard sur l'autre, de leur apprendre à regarder l'autre. Ensuite, c'est ressenti, hein, qu'est-ce qu'il ressent dans son corps quand il est triste? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se sent? Est-ce que si on lui fait un câlin, ça va mieux, etc.? Voilà la question, qu'est-ce qui lui fait du bien? Ça, c'est important pour lui, aussi pour plus tard, pour qu'il trouve ses moyens, qu'il soit capable de demander ce dont il a besoin quand il est triste. Et est-ce que parfois, il sait pas faire la différence entre, par exemple, le fait d'être triste ou le fait d'être en colère. C'est important qu'il fasse le discernement entre ces deux émotions qui peuvent parfois être assez proches. Et ensuite, évidemment, le faire vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'il pense de la tristesse, qu'est-ce qu'on peut faire de la tristesse. Est-ce que quand tu es triste, il faut simplement accepter d'être triste, attendre que ça passe? Ou est-ce que c'est le moment, ou est-ce que ce moment peut aider à quelque chose? Est-ce qu'il est nécessaire? Donc ça, c'est important. Est-ce que tu attends des autres quand tu es triste? Qu'est-ce que tu attends quand tu es triste? Quel effet cela peut avoir sur les autres que tu sois triste? Donc c'est important, toutes ces questions, pour qu'il se rende compte de, bah voilà, qu'est-ce qui peut le consoler? Est-ce que c'est lui proposer une autre activité? Est-ce que c'est d'inviter ses amis? Est-ce que c'est de sortir? Qu'il comprenne ce qui va pouvoir lui faire partir un peu cette tristesse. Qu'est-ce qui peut se passer si on laisse la tristesse nous envahir aussi? C'est important aussi d'y réfléchir. Quand on est trop triste, on n'a même pas envie de s'amuser, on reste dans son coin, avait dit un petit garçon de la classe. Donc ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que tu penses de la tristesse une fois qu'elle est passée? Donc ça, c'est important aussi pour créer une distance avec son émotion, la regarder partir. Hein, elle passe, on accepte qu'elle passe, mais aussi on est content de la regarder partir. Donc voilà, je vais vous laisser donc réfléchir sur tout cela et mettre en place, peut-être ça vous donnera des clés pour mettre en place ces discussions avec les enfants qui sont vraiment importantes, mais surtout restez dans l'interrogation comme ça et écoutez sincèrement leurs réponses, ça va vous aider vraiment à mieux les comprendre et partagez vous aussi, hein, soyez vraiment sincères avec eux vous allez mieux les comprendre parce que vous comprendrez aussi qu'est-ce qui leur donne de la joie, qu'est-ce qui leur donne de la tristesse, dans quelle situation, comment faire pour leur donner ou pour qu'ils aillent mieux. Et ça, c'est vraiment important de trouver ensemble des outils par rapport à ces émotions. Donc je vais arrêter là l'épisode et je vous propose qu'une prochaine fois, on parle de la même façon des autres émotions.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.